fois qu'on écoute
le premier chanteur qui tousse, fait lui il a fini dans la spéciale nécro de cette année. Mais donc le King Crimson, lui, est immortel et on le retrouve ce soir, lui et sa cour, avec le très grand classique The Court of the Crimson King pour conclure cette spéciale roi et reine, bien sûr.
Un classique évidemment, Yannick. Et oui. Pour terminer cette émission,
c'était beaucoup trop court à mon avis.
Et ça va vite, hein.
Oui, ouais,
deux heures.
J'ai
ça va moins vite que... pour nos auditeurs à mon avis. Allez, vous êtes arrivés au bout, courage, il reste plus que les 12 minutes et quelques du titre de King Crimson.
Il dure 9 minutes 22.
Oh, ouais. Ça va, c'est bon
très,
alors.
C'est très long, mais c'est très très bon.
Et on vous laisse avec ce titre et on se retrouve, Yannick, le 11 août.
Le 11 août, voilà. Oui, pour une spéciale...
Oh, je serai pas là.
Oui, tu seras pas là. Moi, je serai à la Japan, donc ça vous donne un gros indice. À la Japan Expo en banlieue de Paris.
Ouais, et ce sera nos 10 ans en septembre.
Et oui, grosse émission à la rentrée pour les 10 ans d'Au-delà du RL.
On y réfléchit.
Ouais. On vous prépare des surprises.
Sûrement.
Ouais, en fait, on n'en sait rien. On sait pas. On a tout l'été pour y réfléchir.
On a le temps, voilà.
On se retrouve au mois d'août, 11 août, on l'a dit. Écoute, on va se laisser là-dessus. Hein.
Et ben voilà.
Moi, j'ai enlevé mon casque. Je suis
désolé. C'était un plaisir. Bois un petit peu.
Ah oui, un peu de jus de fruits.
Rafraîchis-toi. Et on se retrouve le 11 août. Et on vous dit à très bientôt d'ici là.
Oui, bon été à vous toutes et à vous tous sur Radio Libertaire. Salut. Dis au revoir.
Oui, au revoir.
Il est en train de siroter, il en a plus rien à foutre.
Je croyais que t'avais coupé quand t'es déjà sorti du studio. Ouais, au mois prochain, c'est ça.
Allez, bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Libertaire.
Ciao.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Of the city keys put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Thank you. gardener plants an evergreen, was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin, as slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Cette fine silhouette et ses castagnettes muettes dans la nuit noire du goudron. Viens me donner à la tétine ces paroles de nicotine qui mettent ma gorge au supplice. Quand 100 000 bouches te pèsent du bout filtre jusqu'à la braise dans un champ de papier. Maïs descend jusqu'au fond du mégot, chanter du rock au flamenco, en grattant mes cordes vocales, danser les pieds nus dans la cendre, allumer ma bouche et entendre battre mon cœur de caporal. Belle brune qui se fume dans ce siècle où tout se consume, entre nos doigts jaunes et se jette, au toit qui portera mon deuil, demain couché dans le cercueil de mon étui de cigare. Au toi qui portera mon deuil, demain couché dans le cercueil de mon étui de cigare. We'll be right back.
la gloire en un appartement cossu. Des tas d'amis inattendus viendront piquer à ma mangeoire. Et sur mes nappes de dentelle, brodées au point de l'amitié, viendra savamment avarier quelques faisans à leur échelle. Mes amis, qui m'étiez fidèles, où êtes-vous, où êtes-vous? Je mettrai dedans mes bouteilles les vins vulgaires de l'année, discrètement millésimés, et mon corton fera merveille sur mon Steinway plein d'expertise. Je leur jouerai du Stravinsky. Pendant qu'ils boiront mon whisky, diront chut, le maître improvise. Mes amis, qui m'étiez fidèles, où êtes-vous, où êtes-vous? J'aurai leur femme légitime dedans des lits à baldaquin qu'ils m'auront offert pour mon bien en m'assurant de leur estime. Mais dans ces draps de l'adultère, brodés au point du dévouement, ces créatures d'un moment me feront bien triste litière. Mes amis, qui m'étiez fidèles, où serez-vous? Où serez-vous? Tandis qu'enfoui sous la terre, j'attendrai le temps qu'il faudra. L'ami lointain qui fleurira ma tombe aux fleurs de la chimère.
Petits étrangers aux papiers délavés cherchent dans le matin quatre croissants de lune. Les petits étrangers plongent des doigts de fée pour laver le chagrin dans un ruisseau d'écume. J'avais dans la main une poignée d'étoiles et je les ai données du haut de mes 10 ans. Aux étranges gamins hantant la capitale, mon cœur a décidé de les suivre en riant. Les petits étrangers aux papiers délavés cherchent dans le matin quatre croissants de lune. Les petits étrangers plongent des doigts de fée pour laver le chagrin dans un ruisseau d'écume. Tous les matins brillaient dans ma cour et ma rue où j'allais dénicher mes nouveaux camarades. Plus qu'un petit français, j'étais un chat perdu, les yeux ensommeillés dans un rêve nomade. Après-demain matin, quand je serai plus grand, j'irai les rechercher tout près de la frontière. J'irai par les chemins en évitant les grands, et je leur donnerai un peu de ma lumière. Les petits étrangers ont des yeux étonnés quand s'effacent les mains pour quelques sous de brume. Les petits étrangers au papier délavé cherchent dans le matin quatre croissants de lune.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole. Parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Caroline s'ennuie dans sa chambre d'enfant. Les poussières de la nuit ne brillent pas vraiment. Sa maman lui a dit qu'il est temps qu'elle s'endorme. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Sur ses cahiers d'école, il y a des soleils oranges, de plus en plus petits, de plus en plus étranges. Des forêts sous la pluie et des chemins difformes. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'homme, vague à l'homme. Un baiser, une barbe dure, quatre lettres qui résonnent. Vague à l'homme, vague à l'homme. Dans le cœur de Caroline, y a un papa qui cogne. Les messieurs de passage qu'elle voit de temps en temps n'ont jamais le visage de celui qu'elle attend. Et son cœur fait naufrage, elle n'aime plus personne. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'homme, vague à l'homme. rasé, une barbe dure, quatre lettres qui résonnent. Vague à l'âme, vague à l'or. Dans le cœur de Caroline, il y a un papa qui colle. Ces voleurs de câlins qui la regardent à peine. Caroline sait bien que sa maman les aime. Et qu'elle est si jolie quand elle s'abandonne. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'âme, vague à l'homme. Un baiser, une barbe dure, quatre lettres qui résonnent. Vague à l'âme, vague à l'homme. Dans le cœur de Caroline, il y a un papa qui colle. Vague à l'âme, vague à l'homme. Dans le cœur de Caroline, il y a un papa qui cogne.
D'attente à Marseille une nuit. Ils sont bien 20 ou 30 qui sommeillent ou qui chantent pour tromper leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne ou d'Algérie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, trois chemises, un pantalon usé. Dehors le vent, la bise, racle la pierre grise et le poudron des quais. Ils viennent construire nos barrages, nos ponts, nos autoroutes aussi. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Leurs familles, leurs garçons et leurs filles, ils ont dû les laisser. C'est la loi qui le dit, paraît que dans mon pays, il y a trop d'étrangers. Leur faudra du cœur à l'ouvrage, et puis apprendre à dire oui. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. On ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal. Ça se passe chez moi. Ils retourneront dans leur village quand on ne voudra plus de ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. On ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal. Ça se passe chez moi. Ils retourneront dans leur village quand on ne voudra plus de ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent.
Ils étaient cinq, c'étaient des hommes, tous les cinq sentaient le tabac. Même celui qui ne fumait pas. Le premier a bien tenté de me dire d'où il venait. Et où il voulait aller, il voulait que je l'écoute. Faut croire qu'il avait sans doute des choses à me raconter. Mais moi, je ne l'ai pas laissé parler. Je ne l'ai pas laissé parler. Je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai mordu la lèvre. Il m'a rendu mon baiser. Ils étaient cinq, c'étaient des hommes. Tous les cinq sentaient le whisky. Même celui qui ne buvait pas. Le second a bien tenté de me parler de sa mère, de pleurer sur son passé. Il a versé quelques larmes. Il avait le goût du drap et ne pouvait oublier. Mais moi, pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer. J'ai touché ses cicatrices, il m'a déshabillé. Ils étaient cinq, c'étaient les hommes, tous les cinq m'ont parlé d'amour, même celui qui ne m'aimait pas. Le troisième, le quatrième ont tenté de m'emmener. Ils rêvaient à une épouse. Il m'avait imaginé au coin de la cheminée, comme un grillon du foyer. Mais moi, je ne les ai pas laissés rêver, non. je ne les ai pas laissés rêver, je ne les ai pas laissés rêver. Le cinquième, le gentleman, ne m'a rien dit, pas un mot. Ils étaient cinq, c'étaient les hommes, tous les cinq, ils sentaient le yé, lorsqu'ils sortaient de mon lit, lorsqu'ils sortaient de mes bras. Ils étaient cinq, et puis voilà, ils étaient cinq, et puis voilà.
C'est quelque chose qui commence au fond de l'eau, dans le noir, et ça remonte peu à peu à la surface, et ça miroite comme un souvenir, comme un souvenir d'un...
Ses rayons, vous et moi nous aimions au bord de la Seine. Nous laissions glisser nos cœurs sur le fil de ses heures le long de la Seine. Certains jours, je disais, j'ose et vous offrais des roses. Vous étiez si belle, nous vivions ivres de vent et dansions en buvant du vin de Moselle. Oh, jolie demoiselle. Ses amants. Paris était un fruit mûr, vous et moi marchions sur les ponts de la Seine. Venais seul certains soirs quand, ne pouvant vous voir, j'avais l'âme en peine. Oh, jolie demoiselle. Ouh, qu'en a-t-il de l'amour? Ses amants. n'avoir jamais vu plus d'amour que j'en ai au bord de la Seine. Quand vous et moi la suivions sous le feu des lampions, vos mains dans les miennes, faut-il qu'il m'en souvienne? Où sont-ils tous ces jours et ces amants?
Ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
Tu me fais la tête de plus. Mon œil, froid au rein, l'autre monde me fait douiller. Tu me fais la tête, tête de pluie. Tu me fais la fête, fête de pluie. Tu me fais rêver. Je vois des choses, je vois des choses qui ne sont pas du tout comme ça, mais c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Tu me fais la fête, fête de pluie. Je veux mourir, je veux par toi. Étrangle-moi, ongle de pluie. Étouffe-moi, étouffe-moi, souffle de pluie. Tu me fais vivre.
Sono le 22:30.
Sono le 22:30. Per l'Europol è che gli stati
Radio Libérateur. Radio Libérateur, salut. Salut les déglingos. Salut les déglingos, c'est...
Alors voilà.
Voilà, stop, ah, ça
merci pour le micro.
Stop.
Salut Yannick.
Salut, je me suis pas encore présenté, qu'on se jette à l'assaut de mes micros, de mon antenne, de ma radio, de mon émission et de mon show. Voilà, je suis assailli de toutes parts.
Bonsoir.
Salut, mais bonsoir, vous inquiétez pas, je vais vous passer la parole.
D'accord. Bonsoir.
Surtout que j'ai envie de faire caca, donc ça tombe bien.
Oh, bah d'accord, merci.
Salut les déglingos, c'est le club déglin, yo micro. On est comme vous. On est pareil que vous. On a trop chaud. On est fatigué. On a trop bouffé. Enfin, j'espère. Et on a le ventre gonflé. On va crever.
Et on est sous.
N'importe quoi.
Et mais ça, c'est pas pour maintenant.
Oui, voilà.
Ok, c'est Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Surtout schiste. Non, je plaisante. C'est le 89.4 sur la bande FM parisienne, évidemment, bien sûr. Vous êtes... Pourquoi je prends cette espèce de ton de voix, là, comme si j'allais mourir? Justement, parce que je vais pas tarder. Mourir. J'en peux plus, j'ai trop... Bon, c'est fini, je ne mange plus avant de faire des missions. J'arrête pas de le rêver. Là.
Ouais.
En plus, il n'y a pas un ventilo dans cette baraque.
C'est vrai. Il n'y en a pas.
J'ai écouté une émission la semaine dernière, ils avaient un ventilo à l'antenne.
Oui, ils apporté leur propre ventilo.
Non, je crois qu'il y en a un.
Il y en a un au fond.
Eh bien, on va le mettre, parce que là, c'est pas possible. C'est pas Dieu possible.
C'est pas l'alcool qui te monte à la tête,
là. Hein, j'ai pas bu, je bois plus.
Oh là là.
Je bois plus, depuis que j'ai fréquenté la mort, je bois plus. Allez, Radio Libertaire, le 89.4, comme je disais. C'est de poste. Non, je fais attention à ne pas défoncer les potards. C'est le vue-mètre, pardon. C'est de poste non-radio show. De poste non-radio show. Vous avez reconnu ma douce voix, n'est-ce pas? C'est moi, Enrico Micro, et là, il y a Serge.
Bonsoir, Enrico.
Serge, et puis, rebonsoir. Ça fait 3 heures qu'on est ensemble, mais bon, bonsoir quand même. Guy.
Salut.
Guy, salut.
Bonsoir à tous.
Salut mon Guy à moi. Et Yves.
Bonsoir.
Alors.
À toutes et à tous.
Bah, il y en a un de vous trois qui va aller chercher le ventilo. Hein. Allez, on tire même pas au sort, c'est moi qui décide. Bravo Serge, oh là là, quel esprit d'entreprise. Quel esprit d'initiative. Donc sur BFM Business, il fait chaud. Ah pardon, non, le stagiaire va aller chercher le ventilo. Pardon, non, c'est pas... Non, ok, d'accord. Je suis en forme aujourd'hui, vous avez vu, je suis pas encore morphiné. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle cette histoire de morphine, ces quatre. Entre vous et moi, soit dit en passant. Je parle aux auditeurs. Alors, je voulais dire, franchement, merci les auditeurs. Non, mais ne me le fous pas en pleine tronche. Mais le par là, je sais pas, attends, on verra après. Alors, merci les auditeurs, je suis très content. Je sais pas ce qui se passe depuis que je suis survenu. J'ai des preuves d'amour, là, comme ils font, là. Il y en a certains, là, sur YouTube, ou même à la radio, à la télé, là. Quand ils en peuvent plus, ouais, j'ai des preuves d'amour de ma communauté, de mes auditeurs, gna gna gna, ah, je vous adore et tout, non, mais super, franchement génial, de tout cœur, ça me fait vraiment beaucoup chaud au cœur, oui, moi aussi je parle bien, et beaucoup chaud au cœur, donc après Fabien et sa carte postale, qui est désormais une icône, j'ai construit une chapelle autour, hein. Enfin une chapelle athée, hein. On fait une sorte de temple athée autour de la... Enfin bref, après le coup de fil de Philippe, il y en a eu plusieurs après entre nous, pour me dire à quel point il me trouvait génial, merci Philippe. Et maintenant c'est un mail. Alors vous remarquerez qu'on a tout... comme quoi la France fonctionne encore, hein, c'est pas... Tout n'a pas brûlé, la poste fonctionne. Les PET fonctionnent.
Oui, enfin, les mails, c'est pas par la poste, à mon avis. Mais j'ai peut-être dormi un instant.
Les PET fonctionnent, France Télécom fonctionne, et Internet fonctionne. Donc, c'est cette fois-ci Pierre-Paul Jacques. Vous noterez la subtilité du pseudo. Pierre-Paul Jacques qui nous a envoyé, qui m'envoie un mail à moi, ou un mail à nous, pour nous dire que.
Un des défilés.
Qu'il n'allume pas souvent la radio. Mais là, il est tombé sur nous. Il a trouvé ça super la semaine dernière. Merci beaucoup du fond du cœur. Nous ne t'embrassons pas parce que nous sommes tous suants. Mais nous te remercions vraiment. C'est génial. Voilà, une preuve d'un auditeur me suffit. Suffit à mon bonheur. Voilà. Maintenant, je peux aller faire caca tranquille. Donc, je plaisante.
Je peux parler de cabinet pendant que tu vas faire caca.
Ben écoute, bon, alors j'ai présenté. Ben oui, en plus c'est vrai. Je suis barbouillé. Je le dis là. Je n'ai qu'une promesse. Je n'ai qu'une parole. Hein. Pas 36. Hein. Des fois j'en ai 37. Des fois 35. Non mais je ne mange plus au resto. Vous vous démerdez. Vous faites ce que. Alors, déjà, on a changé. J'ai trop mangé là. Et pourtant, j'ai pas mangé grand chose. Hein. J'ai mangé une salade. Comme on dit chez moi, la salade, c'est de l'air. Ou de l'eau. J'ai pas mangé grand chose et de la glace.
Et de la glace.
Bah, franchement, j'ai l'estomac complètement déglingué. C'est terrible.
Bah, c'est-à-dire que t'as perdu un peu l'habitude de manger.
Écoute, je sais pas si c'est mon estomac avec mon anneau là.
Oui.
Ils en ont profité, j'étais dans le coma pour me foutre un anneau. Non, je peux. Je plaisante. J'ai vraiment trop mangé, c'est très déplaisant. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Je ne sais plus, on va. Donc, je n'ai qu'une parole.
Oui.
C'est fini, les restos. Le resto avant la radio, c'est fini. Direct. Moi, vous vous démerdez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'arrête, parce que là, c'est pas possible de prendre l'antenne dans des conditions pareilles.
J'adore le fond sonore que tu utilises.
Oui, j'ai changé un peu, parce qu'on fait un peu pop expérimental. Et maintenant, je laisse à la parole. Alors, pour une fois, je la laisse vraiment avec bienveillance et à Yves. Yves, éclate-toi.
Ah non, mais les cabinets, ça sera quand tu auras fini, parce que je veux que tu entendes, et puis je tiens à maintenir le suspense. Mais non, j'ai vu un article intéressant sur Piketty. J'ai deux Piketty, plutôt.
Qui est l'économiste. Piketty, qui est l'économiste, c'est
oui.
Ça
Donc il y a Piketty, puis il y a Fabien Jobard qui raconte des choses qui sont complémentaires. Donc je ne vais pas mélanger les deux articles, mais je vais vous raconter un peu la teneur du premier de Piketty.
Piketty fait partie des économistes atterrés, c'est ça?
Je ne sais pas.
Ah, c'est pas marqué dessus.
Qui fait partie des. Alors précisément, directeur. Mais tout le monde connaît Piketty. Donc,
oui.
Et il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, École d'économie de Paris. Il a surtout écrit d'énormes pavés sur les capitalismes, l'idéologie notamment. C'est le bouquin qui m'a plus éclairé. Voilà. Et là, il parle des émeutes urbaines, puisque c'est la période qu'on vient de passer.
Oui.
Et que j'ai entendu beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Et là, c'est deux articles dans Le Monde, respectivement du 10 juillet et 6 juillet, qui m'ont paru sortir de ce que j'entendais, en tout cas, sur CNews, par exemple, pour rigoler. Et donc, c'est une attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est vrai. Il dit, revenons en arrière, entre 1990, les inégalités territoriales ont diminué en France, aussi bien du point de vue des écarts de produit intérieur brut, PIB par habitant, entre départements, que les inégalités de richesse immobilière ou de revenus moyens entre communes et entre départements. C'est tout l'inverse qui s'est produit depuis les années 80-90. Alors, le ratio entre le PIB par habitant des 5 départements les plus riches et les plus pauvres, qui était de 3,5 en 1900, 2,5 en 1985 était surmonté à 3,4 en 2022. Donc explosion des inégalités depuis les années 90. Et il dit, on assiste au passage à une concentration inédite du PIB au sein de quelques départements de l'Île-de-France, notamment Paris et les Hauts-de-Seine, en lien avec l'expansion sans précédent du secteur financier et des états-majors des grandes entreprises. Une évolution spectaculaire qui a été exacerbée par la déréglementation financière, la libéralisation commerciale, ainsi que par les investissements publics faisant la part belle à la région capitale et aux grandes métropoles, TGV, contre-trains régionaux par exemple. Il dit, on retrouve ces évolutions similaires au niveau des inégalités entre communes. Le ratio entre la richesse immobilière moyenne des 1% des communes les plus riches et les plus pauvres est passé de 10 en 1985 à 16 en 2022. À Vierzon, à Aubusson ou à Château-Chinon, la valeur moyenne des logements est environ 60 000 euros. Elle dépasse 1,2 million dans le 7e arrondissement de Paris, ainsi qu'à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes.
Oui, ça c'est...
Le ratio entre le revenu moyen des 1% des communes les plus riches et les plus pauvres est passé, quant à lui, de 5 en 1990 à plus de 8 en 2022. Donc le revenu moyen, qui est à peine de 8 000 à 9 000 euros par an, j'insiste, et par habitant à Creil, à Grigny ou à Roubaix, et il atteint 70 000 à 80 000 euros par an également, à Neuilly-sur-Seine, au Vésinet, au Touquet. Il dépasse même les 100 000 euros par habitant, y compris les enfants, je plaisante, pas, dans les 7e et 8e arrondissements de la capitale. Donc le point central est qu'on observe que les inégalités considérables entre communes sur l'ensemble du territoire, aussi bien à l'intérieur des grandes améliorations que les bourgs et des villages, au sommet de la hiérarchie territoriale se trouvent les banlieues les plus riches des grandes métropoles, une partie des centres-villes, ainsi qu'un certain nombre de bourgs et villages huppés. Et tout en bas de la pyramide, il y a les banlieues les plus pauvres qui ont été lourdement frappées par la désindustrialisation. Ça, je reviendrai là-dessus dans l'autre article dont je parlerai tout à l'heure. Et elles sont désormais tout aussi pauvres que les bourgs et les villages les plus pauvres, ce qui n'était pas le cas historiquement. C'est-à-dire, c'est des endroits, pour mordre un peu sur l'article suivant, où les hommes qui traditionnellement, par exemple les blousons noirs dans les années 68, ils se trouvaient à se faire embaucher dans les usines comme main d'œuvre, manutentionnaires, ouvriers, mais il n'y a plus d'industrie. Donc ces jeunes, alors les femmes, elles s'en sortent un peu mieux parce qu'il y a des emplois de service. Bon, je referme la parenthèse. Donc ces territoires défavorisés, ils font face à des défis spécifiques. Les banlieues pauvres ont une bien plus forte expérience de la diversité des origines et des discriminations avérées face aux pratiques policières, à l'accès au logement et à l'emploi. Les puissances publiques doivent enfin se donner les moyens d'objectiver et de mesurer rigoureusement l'évolution de ces discriminations. Les différents territoires défavorisés se caractérisent également par des insertions spécifiques dans la structure productive. Les banlieues pauvres comprennent un grand nombre d'employés, des services, qui continuent de voter pour la gauche. À l'inverse, les bourgs et villages pauvres comprennent désormais davantage d'ouvriers exposés à la concurrence internationale. Et beaucoup se sont sentis abandonnés par des gouvernements de gauche et de droite ces dernières décennies, accusés d'avoir tout misé sur l'intégration européenne et commerciale à l'échelle mondiale, sans limites et sans règles, et ils ont rejoint le Rassemblement National, anciennement Front National. Contrairement à ce que s'imaginent les responsables du Front National, à ce que s'imaginent les responsables politiques du bloc nationaliste, c'est même plus large que ça, ces électeurs attendent avant tout des réponses socio-économiques à leurs problèmes et non pas une stratégie d'affrontement identitaire qui ne correspondent d'ailleurs nullement à l'état réel de la société française, comme le montrent les niveaux très élevés de mixité et d'intermariage. La vérité est que les banlieues pauvres et les bourgs et villages pauvres ont beaucoup de points communs par rapport à tout ce qui les sépare des territoires les plus riches, notamment en matière d'accès aux services publics et de budgets communaux. La raison est simple, les ressources dont disposent les collectivités publiques dépendent avant tout des bases fiscales locales et les dispositifs nationaux supposément mis en place pour faire face à ces inégalités abyssales n'en ont réduit qu'une petite partie. Et finalement, le budget par habitant est plus élevé dans les communes riches que dans les communes pauvres, si bien que l'argent public exacerbe les inégalités initiales au lieu de les corriger en toute bonne conscience. Les propositions faites en 2018 par le rapport Bourleau pour objectiver cette réalité et y mettre fin ont été abandonnées. Le Bloc libéral continue d'expliquer aujourd'hui qu'aucune redistribution supplémentaire n'est envisageable. Voilà, c'est cet article dont je voulais vous faire part, qui est un peu moins provocateur que le suivant.
Disons que effectivement, il y a toujours plus ça avance, plus l'écart se creuse, si j'ai bien compris.
En ce moment, il y a une explosion. J'avais souhaité bonne fête aux plus riches des hommes la semaine dernière. Ça a continué. Il y a un petit article dans le Canard encore qui élargit l'horizon. Je sais combien de milliards de plus pour les plus riches. Et puis, en bas de l'échelle, il y a une situation qui est loin de s'améliorer, disons. Et puis, surtout, une volonté de ne pas faire, parce que par exemple Monsieur Pisani-Ferry, il propose pour comme politique énergétique, c'est un nombre de choses que Madame Borne essaye de reprendre d'ailleurs, mais lui, il propose un financement spécifique en taxant les 10% les plus riches, ce qui est beaucoup. Les 10%, c'est un nombre considérable de gens.
Oui, c'est pas 1% en tout cas.
Non, c'est pas 1%. Donc, ce serait un financement très, très incolore et inodore, disons, pour les plus riches, puisque ça correspond quand même à de nombreuses personnes, quoi.
Voilà. Tu avais un deuxième article à nous faire part.
Alors j'ai un deuxième article.
Un deuxième article
dont le titre est plus percutant, qui est un article de Fabien Jobard, donc du 6 juillet 2023, qui est « Le législateur a consacré l'ascendant de la police sur la jeunesse postcoloniale ». Donc ça décoiffe un peu, mais cet article est extrêmement intéressant. Il commence par dire à une question de Madame Anne Chemin. L'article précédent, j'ai pas cité. Ah ben c'est Piketty. Anne Chemin, elle commence par dire que, enfin, elle va réagir sur le fait que les émeutes montrent à quel point les relations entre la police et les jeunes des quartiers populaires se sont dégradées. Et elle commence à poser la question, s'agit-il d'une spécificité française ? Elle dit, et lui répond, non, les événements auxquels nous avons assisté ces derniers jours ne sont pas propres à la France. On en observe de comparables aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, parfois au Royaume-Uni ou en Suède. Or, Suède mis à part, ces pays ont en commun une longue histoire contemporaine marquée soit par la prégnance de l'esclavage des populations noires, soit par la présence d'une population issue des territoires coloniaux. Le contraste avec l'Allemagne est frappant. Dans ce pays qui a été frappé de ses colonies africaines par le traité de Versailles en 1919, les tensions avec les populations minoritaires existent, mais elles sont moins fréquentes et bien moins intenses. Question, de quelle manière cette histoire coloniale française pèse-t-elle ? Il dit, la guerre d'Algérie et la colonisation sont à mille lieues des préoccupations policières et policiers de notre pays. Ce ne sont pas eux individuellement qui portent cette histoire et qui la font perdurer. Et le fait de savoir si des policiers ou les policiers seraient racistes ou non n'aide pas davantage à comprendre ce qui se joue. Ce qui fait que la police est un lieu de perpétuation du rapport colonial sur notre sol est la collision de deux phénomènes historiques. Le premier est le fait que les populations issues des territoires nord-africains ont été installées à la va-vite, dans des grands ensembles de nos banlieues. Ces villes étaient sous-administrées, pas ou presque pas de police, quelques brigades de gendarmerie, des commissariats isolés. À cette époque, la police faisait avec ce qu'elle avait et de surcroît, elle recrutait peu. La doctrine et les chefs disponibles étaient donc ceux des années 50-60, ceux de la guerre en métropole, lorsque la gestion des populations nord-africaines reposait sur la mise à distance, le contrôle, l'imposition d'une obligation de déférence permanente, bref, la subordination sous férule policière. Dans un tel schéma, le contrôle d'identité avec fouille est central. C'est l'instrument majeur d'imposition de l'autorité policière comme préalable non négociable. Une telle gestion des populations subalternes aurait pu s'éteindre peu à peu, silencieusement, emportée par la croissance et le renouvellement des générations, tant du côté de la police que du côté de la jeunesse. Mais au milieu des années 1970, la France s'est engagée sur une voie économique singulière, celle de la désindustrialisation, et c'est le second phénomène historique décisif, ce que j'avais abordé un petit peu en parlant de l'article de Piketty. De 1975 à nos jours, plus de 2 millions d'emplois industriels se sont évaporés et la France est devenue un pays de service, et cette mutation a pénalisé en tout premier lieu les jeunes hommes sortis du système scolaire sans qualification. Les jeunes femmes s'en sortent mieux. Or, dans quel rang se recrutent principalement ces jeunes hommes ? Dans ceux des familles les moins favorisées, les moins dotées, les familles immigrées. C'est un contraste remarquable, marquant, avec la trajectoire historique allemande. L'Allemagne a protégé son industrie. Lorsque les jeunes sortent du système scolaire sans qualification, le système allemand est bien plus soucieux de la formation aux métiers manuels que nous. Une place les attend à l'usine, sur la chaîne, à l'atelier. Outre-Rhin, l'industrie parvient donc à absorber ces jeunes à problème, comme on dit là-bas, comme autrefois Renault et Citroën absorbaient nos blousons noirs. Et en France, dès le milieu des années 70, une population oisive essentiellement formée de jeunes issus de l'immigration coloniale s'est constituée au pied des tours. Cette jeunesse est disponible aux tensions avec la police. De Toumi Djaïdja, fils de Harki, victime en 1983, un soir de Ramadan, aux mains guettes d'un tir policier dans le ventre alors qu'il tentait de venir à l'aide d'un de ses amis aux prises avec un chien policier, à Naël, à Nanterre en 2023, les relations sont explosives. Et la dynamique socio-économique française a fourni à la police une clientèle essentiellement issue des populations coloniales qui est enfermée avec elle dans un face-à-face mortifère et sans issue. Madame Anne Chemin lui dit « Mais les pratiques de la police sont encadrées par le droit. Quelle a été l'évolution des textes depuis 1970 ?» Sur ce plan, dit-il, il est frappant de constater que le droit, notre droit républicain, n'a pas corrigé les pratiques, mais les a au contraire garanties. Je reprends les contrôles d'identité. Ces pratiques se développaient de façon assez sauvage. Le droit positif ne les prévoyait pas. En février 1981, donc trois mois avant la prise de pouvoir par Mitterrand, le gouvernement de Raymond Barre a fait adopter une loi décriée par la gauche qui a créé les contrôles d'identité, article 78.2 du Code de procédure pénale, et en réalité, cette loi consacre les contrôles. Elle couvre en quelque sorte des pratiques dont nos recherches ont démontré qu'elles visent essentiellement la jeunesse postcoloniale. Ce geste que la gauche n'a pas abrogé est significatif d'une dynamique qui s'est enclenchée dans d'autres domaines de l'action policière. Les pratiques et les perceptions policières ont été relayées par les politiques publiques. Quelles étaient ces politiques publiques ? Eh bien, à partir des années 90, une décennie marquée par des émeutes urbaines localisées, engendrées par des faits policiers mortels ou la rumeur de tels faits, deux choix ont été explicitement arrêtés. Le premier, c'est le renforcement de l'arsenal pénal contre les mineurs auteurs de faits de délinquance de voie publique. Les circulaires de politique pénale, puis la loi elle-même, encouragent la fermeté à l'égard de ces jeunes délinquants qui se regroupent socialement parmi les jeunes de cité, ce qui vient rétrospectivement légitimer l'action policière à leur égard. La politique pénale est telle qu'aujourd'hui, le législateur offre aux policiers la possibilité de sanctionner eux-mêmes des délits par une amende dite délictuelle. Or, ces délits étant ceux habituellement commis par des jeunes de cité, ce pouvoir de sanction exorbitant confié par le législateur à la police consacre son ascendant sur cette fraction de la jeunesse. La seconde trajectoire de politique publique est l'abandon de ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps encore, les politiques d'accompagnement social de la délinquance. Et pour des raisons à la fois idéologiques et budgétaires, les gouvernements successifs ont concentré la dépense publique sur les forces de l'ordre. 15 milliards d'euros et 8500 agents supplémentaires sont prévus dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier 2023. Et ils ont privé les communes et les départements de fonds permettant une action sociale portée par les éducateurs spécialisés, les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux. Même les emplois précaires, les emplois jeunes, puis les emplois aidés ont été supprimés. Les premiers sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et les seconds sous celui d'Édouard Philippe. J'insiste sur la dimension budgétaire de ces choix. En Allemagne, les communes et l'État disposent encore de moyens financiers pour l'action sociale. La France pourrait-elle s'inspirer des politiques mises en place par l'Allemagne ? L'Allemagne a perdu ses colonies il y a un siècle. Elle n'a pas fait le choix de se défaire de son industrie. Elle n'a pas renoncé au social au profit du sécuritaire. Et le caractère décentralisé et régional de la police, qui était une des conditions de la sortie du nazisme en 1945-49, fait que la police existe à peine en tant qu'institution et surtout en tant que groupe d'intérêt. Les syndicats policiers n'y sont pas engagés dans un conflit permanent, dans un défi permanent lancé aux politiques et aux magistrats, facteur considérable d'apaisement des passions policières et de discipline dans les rangs. Plus qu'un modèle dont on importerait telle ou telle recette, l'Allemagne offre plutôt un horizon dans lequel s'inscrit la question policière. Voilà, cette question ne pourra pas être dénouée seule, dit-il. Libérer la police française de sa colonialité ne passe pas par je ne sais quelle réforme isolée, type revenir à la police de proximité, mais par l'investissement massif dans la formation, l'emploi et l'accompagnement social d'une jeunesse que les gouvernements successifs ont bien lâchement confié aux soins presque exclusifs de la police. C'est un article d'humeur donc assez fort, monsieur Jobard. Monsieur Faber-Jabien, c'est quelqu'un qui est directeur de recherche au CNRS, politiste, c'est-à-dire c'est un chercheur
en politique.
C'est un chercheur qui, par opposition aux politologues qui ne le sont pas. Il est chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit des institutions pénales, auteur avec le sociologue Olivier Filleul de Politique du désordre, la police des manifestations en France, avec un Allemand qui s'appelle Daniel Schöpfnung. Politische Gewalt im urbanen Raum, violence politique en milieu urbain, non traduit, avec Jérémy Gauthier de Police, questions sensibles au PUF en 2018, et avec Jacques Maillard de Sociologie de la police, politique, organisation, réforme au PUF en 2015. Directeur du groupe européen de recherche sur les normativités, il publie en septembre une bande dessinée réalisée avec Florent Calvez de la création des lobbies anglais aux dystopies policières contemporaines. Global Police, la question policière à travers le monde.
Stop.
Qui interroge la nature et le devenir de nos polices. Voilà, stop. J'ai fini.
Dis donc, il était temps. Hein. Excuse-moi, mais là, alors là. La prochaine fois, quand tu préviens, quand tu projettes de nous lire ton encyclopédie en 10 volumes. Hein. Parce que alors là, c'est tombé comme une pierre dans l'estomac. Là.
Je vous remercie de m'avoir laissé sur ton antenne pour m'avoir.
Bah, t'as de la chance.
T'as
de la chance que j'ai eu un léger désordre stomacal, parce que je veux dire que je t'aurais coupé fissa.
Ouais, parce qu'ensuite, je parlerai des cabinets, ça t'intéresse.
Non. T'as passé ton temps de parole. La prochaine fois, il faudra peut-être songer. Résumé.
Je suis désolé, mais
résumé.
Non. On résume pas la pensée de quelqu'un sur des sujets aussi sérieux.
Et ben,
je crois pas que ça soit possible parce que déjà sa pensée.
Alors, moi je te propose une autre solution.
Elle est très réductrice dans un article de journal qui fait une page, d'accord, mais c'est toujours très réducteur. Et donc résumé, c'est passé à côté d'un tas de choses. Ouais, il faut un temps pour pouvoir parler.
Attends. Non, résumé, por favor. Parce que là, bon.
Allez, musique.
Ouais, je crois que t'as passé ton tour pour plusieurs émissions, là. Franchement, la pensée de ce monsieur, elle peut être résumée, je suis désolé.
Ouais, vas-y.
Oh, de libertaire, de poste. De poste non-radio show. Je reprends mon souffle. Ouf. Alors, un petit mot peut-être, enfin un petit mot plus tard, pardon, de la fois, ou même un grand mot sur la programmation musicale, mais ça sera plus tard. Je reviendrai sur ce qu'on écoute et sur ce qu'on a écouté. Je voudrais commencer par fêter un bon anniversaire à Fetnat.
Oui.
Mais Fetnat, c'est ma sœur.
Oui, oui.
Bon, elle s'appelle pas Fetnat. Hein.
Oui, oui.
Elle s'appelle Edith. Donc, bon anniversaire. Elle m'a dit qu'elle serait à l'écoute. Je lui ai envoyé un lien par WhatsApp puisqu'elle habite en Espagne. Vous savez
oui.
tout, chers auditeurs.
Ah, oui. On l'embrasse.
Eh bien, apparemment, elle doit dormir. Ou elle doit être morte parce qu'elle a trop chaud.
Oui.
Ou je ne sais trop quoi. Ma sœur n'est pas à l'écoute. Voilà.
Ça fait rien. Lucette, bon anniversaire.
Elle m'avait dit je serai à l'écoute. Et gna gna gna. Bon, voilà. Comme d'habitude, hein, voilà. Tu fais les choses pour les gens qui n'en ont rien. Non. Foutre. Super. Non, je plaisante. Alors, on a fait. Est-ce que j'ai calé un disque pour après ? Vie, j'ai calé un disque.
Non, on voit pas les platines de là où on est. Donc on peut pas te dire si t'as calé un disque ou pas.
Ouais, je sais. Donc, je disais que dernièrement, donc, on a vu passer pas mal. Alors nous, on a fait une émission, on a fait trois. Une série d'émissions, trois en fait, en gros. Autour de la bande FM parisienne, on a présenté avec notre prisme personnel en plus, un peu idéologique ici, il faut dire, les radios de la. Nos colocataires sur la bande FM parisienne, parce qu'on est nombreux à colocationner sur cette bande FM, sur cette fréquence, sur ces fréquences, sur cette fréquence. Donc, on avait entre autres parlé de Radio France et France Inter, et on a vu passer quelques articles dernièrement, alors soit de la direction, pour qui tout va bien, gna gna gna, mais non, faut pas prendre les choses comme ça, tu penses bien, la Laurence Bloch, là, puis l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle,
Sybille Veil,
oui, voilà, les madames bourgeoises, là, qui me président aux destinées, de Radio France. Et donc, puis aussi alors, des animateurs, Charline la couineuse, c'est co-animateurs, enfin, tout le monde s'est répandu dans la presse, tout le monde s'est décidé à parler d'eux, on sait pas pourquoi, c'était pas non plus foncièrement hyper intéressant, mais bon, voilà, on a eu droit à un étalage, de papier, là, sur Radio France qui, comme je le disais dans cette série d'émissions, n'est qu'une vulgaire entreprise privée, quoi, hein, finalement, qui fonctionne comme une vulgaire entreprise privée, hein, puisque ce que reproche, parce qu'il y a deux sons de cloche finalement à Radio France, il y a la direction et il y a les employés, c'est-à-dire producteur, animateur, technicien, attaché de production, réalisateur, gna gna gna. Enfin bref, c'est pas du tout le même son de cloche. Hein. Vous pensez bien qu'il est antagoniste, le son de cloche. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc l'ambiance, en fait, elle n'est pas aussi géniale que veulent dire toutes ces, comme le disent toutes ces dames. Préside à la destinée de Radio France et encore moins là dernièrement à France Inter. Donc extrait du Canard Enchaîné. Alors moi aussi je vais m'étaler, je vais lire des articles de trois pages du 12 juillet 2023. On a un petit truc qui nous a été rapporté par un certain LCL. Alors il faudrait que je vois de qui sont les initiales LC. Donc d'une, il y a eu une
LC, c'est Ligue communiste.
Mais non, c'est un journaliste du Canard. Il y a eu comment dire, une réunion de crise qui s'est tenue le 22 juin, alors où le perso, enfin les employés, sont quand même inquiétés auprès de la nouvelle directrice de France Inter, Adèle Vendrit, encore une bien née, voilà, qui désormais ex-animatrice, qui préside désormais donc à la direction de Radio France Inter. Excusez-moi, là, je suis mon côté un peu pochetron. Donc Adèle Vendrit qui a balayé tout ça d'un revers de main, tout se passe bien, c'est pas possible, ce que vous racontez c'est du complotisme, hein, c'est pas assez simple, ça c'est l'argument number one, hein. Ça c'est, dans tous les cas tu sors ce truc, t'es sûr que c'est destiné à faire fermer le clapet du clan adverse ou des protestations qu'on ferait à ton encontre. Ceci dit, je préviens, à force d'abuser de ce faux argument, il finira par s'user. Il sera plus bon du tout. Alors, faudrait peut-être mieux commencer à chercher un autre argument. Parce que taxé de complotisme et de complotistes tout, rien et n'importe qui, bon, là, ça marche. Ça commence déjà à plus marcher. C'était une parenthèse. Mais enfin, bref, ça, c'est vraiment là. Là, c'est vraiment, c'est un peu, on se croirait. Il y a des moments en France, on se croirait, c'est chez Pol Pot, avec une certaine gauche. Ouais, non, Pol Pot. C'est du complotisme, tais-toi, on va te passer sur les... Allez, camp de rééducation. Camp de réhabilitation culturelle, allez. Alors, bah, pas du tout. Ils m'ont répondu, les employés, il y a quand même du burnout à foison. Il faudrait quand même signaler tout ça à l'inspection du travail et à la médecine du travail. Sauf que, pas de bol, eh ben, le médecin du travail aussi de France Inter, il est en burn-out. Alors, pour balayer tout ça, lever toutes ces craintes et tout ça, et surtout que de balayer la crainte number one, qui est la crainte d'une reprise en main politique. Hein. C'est ça parce que évidemment le passage de la bande à Charline, de la Charline de semaine au week-end à dimanche, vu qu'elle est tellement, comment dire, irrévérencieuse, la Charline, que bon, là, y a pas, en dessous il y a la main du pouvoir, hein. Enfin, certains disent ça, et elle a eu du mal quand même, un peu de mal, Adèle Vendrit, à cacher le fait, et on l'avait déjà dit ici, qu'elle a embauché Lucas Hérald, enfin, a été embauché Lucas Hérald au poste de responsable de la communication externe de Rance Inter, qui est un ancien conseiller d'Elisabeth Borne. Plus proche du pouvoir, tu pouvais pas faire. Tu touchais à la directrice d'école en chef, là, hein. Il était tout près d'elle. Donc, tant qu'à faire, pour satisfaire tout le monde, là, j'essaye je perds le fil tout seul. J'essaye de raccrocher les wagons, là. Ni une ni deux, il y a eu une fête d'été pour célébrer l'été à France Inter. Et Madame Vendrit n'a pas, comme dit le journaliste du Canard, lésiné sur les moyens pour apaiser ses troupes. Puisque paraît-il, alors ça doit être, c'est de première main le témoignage, hein, de la petite fête. Il y avait, dans cette fête de fin d'année, des fontaines à chocolat. Alors j'aimerais bien savoir à quoi ressemble une fontaine à chocolat. C'est un truc où se doit couler un liquide marron. Mmh. Voilà, je sais pas, c'est bon, voilà.
Oh bah d'accord.
Des fontaines à chocolat accompagnées de pop-corn et de chamallows. Donc, et pour finir, donc, le journaliste a dit, bah, rien que des trucs lourds et surtout le chocolat en été. Voilà, c'était deux sons de cloche à Radio France, hein. Ça continue, on va encore peut-être nous inonder, abreuver encore d'articles à gauche, à droite, nous expliquant les positions des uns et des autres, tu vois, de Radio France. Voilà. Et alors, pour finir la rubrique à radio de cette émission, il y a eu le dernier recensement de Médiamétrie qui est tombé.
Dernier sondage,
ce que tu voudras là, le dernier relevé des compteurs. Mm-hmm. Alors on rappelle, et je l'ai toujours rappelé ici, que relever les compteurs concernant la radio tient un peu de la magie gris-gris, hein. quand je parle des postes hertziens.
Oui.
Comme on peut à l'ancienne. Je veux dire, je vois pas à moins de mettre une puce sur tous les postes hertziens de France, je vois pas comment faire pour recenser les gens qui écoutent telle et telle station. Ça me paraît un peu délicat qu'on m'apporte ici que les gens de Médiamétrie nous montrent leurs calculs, enfin leurs méthodes, etc., leur méthodologie. Et après, bon, si on verra si on les croit. En attendant, pour moi, ça relève du gris-gris, de la magie gris-gris, hein, voilà. Après, la seule chose qui soit bien concrète et qui est réelle et factuelle, c'est les connexions IP et le téléchargement des podcasts ou des archives. Ça, c'est du concret. Ça peut se comptabiliser. Donc ça, c'est d'accord. Mais avant, quand ça n'existait pas, il n'y avait que le hertzien. Donc toujours pareil, le décompte un peu magique gris-gris.
Ce ne sont que des échantillons et encore.
Et des sortes d'échantillons, on ne sait pas comment ils les ont obtenus, où on mettait toujours en avant un peu les mêmes. Si ce n'est pas Europe 1, c'est RTL, si ce n'est pas RTL, c'est France Inter. Et ce beau monde se disputait les premières places, sans laisser de place à quiconque d'autre, etc. Bon, on connaît un peu le truc, hein, leur espèce de petite magouille là, parce que c'est ni plus ni moins. Je sais pas comment dire autrement que d'une espèce de magouillerie là. Il faudra m'expliquer comment c'était fait parce que j'ai du mal à croire. Enfin bref. Et donc le dernier sondage nous apprend que dans les quelques premières radios de France à être écoutées, ben maintenant il y a Nostalgie. Mm-hmm. Alors on a vu là en quelques jours pléthore d'articles sur Nostalgie, la radio que n'écoutaient que les morts est devenue une radio très écoutée par les vivants. C'est super, c'est un renouveau. Patati patata. Alors moi, je me dis merde, quand on a parlé de cette radio là pendant ces émissions, on a loupé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui semble bien qu'on l'a un peu écouté. Et bon, c'est, je veux dire là, ça relève pareil de la magie gris-gris. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'elle soit, cette radio soit louée par tout le monde? Ah, mm-hmm. Fantastique, génial. Donc je me suis replongé, j'ai recherché les playlists de Radio Nostalgie, non, c'est toujours même la même chose.
Toujours.
C'est toujours le même foutoir de titres plutôt connus d'il y a... Alors les années 80, mais les années 80, ça a toujours marché. Les années 80, ça marche très bien. Je veux dire, si on poussait le curseur un peu plus loin, ça serait les années 70 qui marcheraient bien.
Oui,
je suis d'accord.
Oui,
oui. Les années 70, c'était vraiment bien.
Mais t'inquiète pas, que moi, j'en passe des titres des années 70. Donc... on se retrouve avec des conneries du style, avec des gens qui écrivent des conneries du style « Ah, les années 80, ah là là, non mais attends, ça fait un moment que les années 80, ça marche. Ça fait un moment que les années 80...
Oh, ça fait bien...
Ça fait bien 40 ans. Ça fait 40 ans que ça marche, les années 80, il faut pas... Oui. Voilà, faut pas se tirer les cheveux, hein, pour s'en faire une félébite là. Les années 80. Alors, et donc je me replonge dans les playlists de Radio Nostalgie, tout ça pour voir en fait que c'est toujours le même foutoir de titres connus plus ou moins, où finalement il y a, alors c'est des titres qui sont qui passent les uns après les autres sans, en dépit du bon sens, sans aucune sélection esthétique. Bon, bref, c'est du n'importe quoi. Donc après, je m'excuse, mais que les directeurs d'antenne de Nostalgie, etc., viennent dans ces articles se faire mousser. Non, votre radio, c'est toujours de la merde. Hein. Il n'y a pas un génie bienveillant qui s'est penché dessus et qui l'a touché de sa baguette en or pour transformer justement de la merde en or. Votre station, c'est toujours de la merde. Qu'il y a quelques bons titres par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, c'est du caca, quoi. Voilà, c'est tout. C'est du caca. Moi, je... Hey.
Surtout que dans les années 80, effectivement, avec les radios libres, on a eu beaucoup de titres de très, très, très mauvaise qualité dans les années 80.
Voilà, en plus, on a eu...
Donc,